Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 23 février 2021. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Niger, Bazoum Mohamed est élu président de la République avec 55,75% des suffrages à l'issue du second tour de l'élection qui s'est tenue dimanche. Au Libéria, le premier procès pour crime datant de la guerre civile s'est ouvert à Monrovia. En RDC, accusés par Kinshasa, les rebelles Hutus rwandais nient leur implication dans l'attaque qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. On le disait en titre, au Niger, Bazoum Mohamed est élu président de la République avec 55,75% des suffrages à l'issue du second tour de l'élection qui s'est tenue dimanche dernier. Les résultats viennent à l'instant d'être proclamés par la CENI, mais déjà l'opposition dénonce un hold-up électoral. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est donc Mohamed Bazoum qui est élu à l'issue de ce second tour de la présidentielle selon les résultats globaux provisoires annoncés il y a quelques instants par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Issaka Souna.
Les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les deux candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mohamed Ousmane, 1,985,736, soit 44,25%.
L'opposition conteste déjà ces résultats. Quelques heures avant cette proclamation, le candidat Mohamed Ousmane, par la voix de son directeur de cabinet, a exigé la suspension de la proclamation et demandé aux Nigériens de se mobiliser pour faire échec à ce qu'il appelle un hold-up électoral. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest doivent se préparer à affronter une poussée djihadiste vers l'Atlantique à partir du Sahel voisin. C'est la déclaration faite ce mardi par Macky Sall, le président sénégalais, qui a aussitôt prôné une attitude vigoureuse face aux djihadistes, avec refus de dialoguer avec eux et souhaité un renforcement du mandat de la mission de l'ONU au Mali. La vaccination des personnes à haut risque contre Ebola a commencé aujourd'hui en Guinée, alors que la réponse d'urgence a été renforcée afin d'éviter la propagation du virus qui est réapparu dans le pays il y a un peu plus d'une semaine. La vaccination a été lancée à Gweke, une communauté rurale de la préfecture de Nzérékoré, où les premiers cas ont été détectés le 14 février. Au Mali, la concertation nationale sur la réforme du secteur agricole se poursuit à Bamako. Il est question, selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de réfléchir sur les réponses à apporter aux insuffisances constatées sur la gestion de la subvention des intrants et équipements agricoles dans le pays. Les rebelles Hutus rwandais des FDLR nient leur implication dans l'attaque qui a coûté la vie hier à l'ambassadeur de l'Italie, Lucia Attanasio, dans l'est de la RDC. Accusé par les autorités de Kinshasa, les FDLR pointent du doigt les armées congolaises et rwandaises. Plus de précisions avec Nanit Talani.
Les forces démocratiques de libération du Rwanda demandent aux autorités congolaises et à la MONUSCO de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives. Les FDLR affirment que le convoi de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone dite des Trois Antennes, près de Goma, sur la frontière avec le Rwanda, non loin d'une position des armées de la RDC et des forces rwandaises de défense. Les responsabilités de cet ignoble assassinat est à rechercher dans dans les rangs de ces deux armées, accusent les FDLR. Les autorités congolaises et rwandaises nient systématiquement toute présence de troupes rwandaises sur le territoire de la RDC. Kinshasa a accusé hier les rebelles hutus rwandais des FDLR d'être responsables de l'attaque qualifiée de terroriste par le président congolais Félix Tshisekedi. Les FDLR, créés au début des années 2000 pour lutter contre le régime de Kigali, sont considérés comme l'un des nombreux redoutables groupes armés qui menacent au quotidien les civils dans l'est de la RDC. Luka Athanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balle lorsqu'un convoi onusien dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade dans la province du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Son garde du corps italien et un chauffeur congolais du PAM ont aussi été tués.
Ajoutons que le corps de l'ambassadeur italien Lucia Tanascio et de celui de son garde du corps Vittorio Iacovaccio, tué dans cette attaque dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été rapatriés mardi vers l'Italie à bord d'un avion militaire depuis Goma. La crise dans la région du Tigré semble hors de contrôle, d'après le ministre finlandais des Affaires étrangères, de retour d'une mission pour l'Union européenne. La situation est militairement, humainement et sur le plan humanitaire incontrôlable, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la presse à Bruxelles. Le Tigré est le théâtre de combat depuis début novembre 2020. Le Libéria accueille pour la première fois à partir de ce mardi un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité aggravés d'un ancien rebelle. Le Point avec Abdourahmane Dia.
Le tribunal finlandais qui juge Djibril Massakwa en Finlande s'est déplacé au Libéria depuis une dizaine de jours pour se rendre sur certains lieux des crimes présumés. Les auditions de témoins commencent aujourd'hui et doivent durer plusieurs semaines à Monrovia plutôt qu'en Finlande pour des raisons pratiques dont la pandémie de COVID-19. Djibril Massakwa, un Sierra-Léonais de 51 ans et surnommé à l'époque l'Ange Gabriel, est accusé par la justice de Finlande, où il vit depuis 2008, d'une longue liste d'atrocités, meurtres, viols, actes de torture perpétrés par lui-même ou ses soldats entre 1999 et 2003. C'est un procès finlandais et non libérien. Les gouvernements libériens successifs, y compris celui de l'actuel président George Weah, se sont gardés jusqu'à présent de répondre aux appels à la mise sur pied d'un tribunal pour les crimes commis pendant les deux guerres civiles les plus terribles qu'ait connu l'Afrique et qui ont fait près de 250 000 morts.
Le procès pour corruption de l'ex-président Jacob Zuma et du géant français de l'électronique Thales dans une affaire vieille de plus de 20 ans aura finalement lieu à mai. C'est ce qu'a décidé ce mardi un tribunal sud-africain. Monsieur Zuma, 78 ans au pouvoir entre 2009 et 2018, est accusé d'avoir empoché environ 224 000 euros de Thales dans le cadre d'un énorme contrat de matériel militaire remontant à 1999. Alors qu'il était vice-président. En Algérie, des échauffourées ont eu lieu à Alger entre policiers et des manifestants rassemblés à l'occasion du deuxième anniversaire du soulèvement populaire Irak qui tente de se remobiliser après un an d'interruption due à la crise sanitaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Agence internationale de l'énergie atomique s'est déclarée vivement préoccupée par la possible présence de matières nucléaires sur un site iranien non déclaré. L'AIEA souligne que le stock d'uranium enrichi est 14 fois supérieur à la limite autorisée. Ces propos interviennent dans un contexte tendu alors que l'Iran a commencé à limiter les inspections de l'agence onusienne après l'expiration d'une échéance fixée par Téhéran pour la levée des sanctions américaines. Londres, Paris et Berlin ont dénoncé ce mardi dans un communiqué commun la limitation dangereuse par l'Iran des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur ses activités nucléaires. L'Iran a mis en œuvre ses limitations mardi après l'expiration d'une échéance fixée par Téhéran pour la levée des sanctions américaines, on le disait. L'accord signé par Téhéran en 2015 avec les grandes puissances vise à empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique. Les services de renseignement américains avaient sous-estimé les risques pesant sur le Capitole le 6 janvier, si bien que le dispositif de sécurité n'était pas adapté pour contrer des criminels prêts pour la guerre, ont admis mardi les hauts responsables lors d'une audition au Sénat, 10 jours après l'acquittement de Donald Trump, accusé d'avoir incité ses partisans à se lancer à l'assaut du siège de la démocratie américaine. Le Congrès continue de chercher à comprendre comment l'impensable a pu se produire afin d'éviter que cette sombre journée ne se reproduise. Le Brésil a annoncé mardi avoir délivré l'autorisation définitive pour l'utilisation à grande échelle du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech. Il s'agit de la première autorisation de ce type sur le continent américain. Cette autorisation définitive permet l'utilisation du vaccin pour l'ensemble de la population et la commercialisation des doses. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus, avec plus de 247 000 personnes tuées en un an. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, le projet de renforcement des infrastructures dans la région du centre a amélioré l'accès à l'eau potable et aux soins de santé d'un demi-million de personnes. Lancé en 2016, le projet s'achèvera en juin 2023. Le taux d'accès à l'eau potable passera alors à 40% contre 10,5% en 2012. 1 million de personnes bénéficieront des soins de santé en 2023 contre 400 000 en 2012. Ce projet a été financé par un prêt de 2,2 millions de dollars et 3 dons équivalents à 116,4 millions de dollars de la Banque africaine de développement. En Afrique du Sud, le taux de chômage a bondi au quatrième trimestre 2020 à 32,5% contre 30,8% au troisième trimestre. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 701 000 pour atteindre 7,2 millions. Cette hausse sera de 8,7% si l'on considère les personnes sans emploi découragées qui ont abandonné toute recherche, explique l'Agence gouvernementale des statistiques. Pour terminer, les 2/3 des pays les plus pauvres ont réduit les budgets alloués à l'éducation depuis le début de la pandémie de coronavirus, malgré les besoins financiers accrus, selon un nouveau rapport conjoint de la Banque mondiale et de l'UNESCO. Ces réductions risquent d'augmenter à mesure que la pandémie continue de faire des ravages sur le plan économique et que les recettes fiscales se détériorent.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. On connaît les oppositions des quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans qui se poursuit en Mauritanie. Le groupe C a livré hier les derniers qualifiés pour les quarts. Le Maroc a arraché son bien en disposant de la Tanzanie 3-0, s'offrant du même coup la tête du groupe C avec 7 points, suivi par la Gambie qualifiée en battant le Ghana 2-1. Néanmoins, les Ghanéens sont qualifiés en tant que meilleur troisième, tout comme la Tunisie. Les oppositions des quarts se présentent comme suit. Jeudi 25 février, le Cameroun fait face au Ghana au stade olympique de Nouakchott et le Maroc et la Tunisie s'affrontent au stade Cheikh Ould Bouidia de Nouakchott. Vendredi, le Burkina Faso joue l'Ouganda et la Gambie la Centrafrique. Transfert, l'international camerounais de Montpellier, Ambroise Oyongo, a été prêté jusqu'en juin prochain au club russe de Krasnodar. Le défenseur de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022, a rejoint Montpellier en janvier 2018 en provenance de l'Impact Montréal, ici en MLS. Après 2 saisons pleines, Oyongo a perdu sa place de titulaire au profit de l'international serbe Mihailo Rištić, arrivé en janvier 2019. Il n'a débuté que 5 des 13 matchs disputés depuis le début de saison. L'international camerounais aux 36 sélections avait été sollicité par le club turc de Hatayspor lors du mercato hivernal. En Angleterre, le gouvernement vise un retour des supporters dans les stades à partir du 17 mai. Si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10 000 personnes maximum, l'annonce a été faite hier par le Premier ministre Boris Johnson. Le plan de déconfinement présenté par M. Johnson devant les députés prévoit à cette date un retour des spectateurs pour les événements sportifs jusqu'au quart de la capacité des stades, mais pas plus de 10 000 personnes. Pour les événements sportifs à l'intérieur, jusqu'à la moitié de la capacité pourra être utilisée, sans dépasser 1000 personnes. Ici, en NBA, le Utah Jazz, leader de la conférence Ouest, a battu Charlotte 132-110. Les Los Angeles Lakers ont subi la loi des Washington Wizards en prolongation 127-124. Washington a pu compter sur Rachel Westbrook, passé à un cheveu du triple-double, 32 points, 14 rebonds et 9 passes décisives, et Bradley Beal, 33 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. C'est la cinquième victoire d'affilée pour les Wizards. Miami a battu Oklahoma City 108 à 94 et les Phoenix Suns ont gagné 132-100 contre Portland. Au Texas, Dallas a gagné contre Memphis 102 à 92. Houston a été battu 120-100 par Chicago, sa huitième défaite de suite.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Lyndon, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par la République démocratique du Congo, où l'assassinat hier dans l'est de la RDC de l'ambassadeur italien Lucia Attanasio a provoqué un tollé international. Le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, s'est exprimé devant le Parlement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à la RDC d'enquêter avec diligence sur l'attaque, condamné fermement dans une déclaration par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Kinshasa l'analyste politique Henri Désiré Zouzi.
Chaque partenaire a son rôle. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment les Nations Unies, avec notamment la MINUSCO, indépendamment du fait que d'année en année, les effectifs ont diminué. Mais cela s'explique simplement par le fait que la République démocratique du Congo préfère traiter directement certains problèmes sécuritaires. Je vous informe par ailleurs qu'il y a de cela quelques semaines, le responsable de la sécurité de la RDC et celui du Rwanda se sont rencontrés justement pour raffermir les liens de coopération et approfondir le partenariat qui consiste justement à trouver des solutions, je dirais, collectives sur des menaces qui n'en sont pas moins collectives.
Est-ce que cet assassinat va impacter l'action du PAM dans cette partie de l'Est de la RDC?
Cela va certainement ralentir tous les dispositifs de mise en œuvre travail du PAM, mais cela fait de nombreuses années, le PAM n'est pas seul à agir également dans cette zone extrêmement délicate et dangereuse sur le plan sécuritaire. Mais ça montre bien que la communauté internationale est tout à fait consciente du danger. Je pense qu'une démission de la communauté internationale dans cette zone-là serait un mauvais signal qui serait interprété notamment par les groupes armés comme étant une démission. Donc il faut, je dirais, maintenir ce cordon sanitaire avec les populations qui en ont le plus besoin et trouver un consensus au sein de la communauté internationale au niveau régional et sous-régional pour pouvoir trouver une solution durable à ce problème.
Est-ce que vous pensez que les différentes accusations déjà exprimées ne sont que des spéculations de part et d'autre?
C'est des bonnes guerres de spéculer ou de jeter des paris dans la mare ou lancer des ballons d'essai pour tester éventuellement la réaction de personnes concernées. Mais je pense que l'affaire est suffisamment grave pour qu'il faille justement à ce niveau-là agir en toute responsabilité et éviter comme ça de faire des déclarations qui vont desservir, me semble-t-il, le bon déroulement de l'enquête. Il faut simplement prendre patience et attendre tout simplement que les conclusions soient rendues. Déjà, le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a dépêché sur les lieux, donc dans la zone concernée, une équipe d'enquêteurs. Il faudra simplement attendre que cette équipe puisse rendre ses conclusions. C'est vrai que depuis quelques heures, on entend des hypothèses, les unes aussi fantaisistes que les autres, mais je pense qu'il va falloir ne pas se laisser distraire par ces informations qui ressemblent davantage à de l'intoxication et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire établir les véritables causes de ce drame et le cas échéant, comme cela a été demander,
l'analyste politique Henri Désiré Zouzi joint à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Sénégal a commencé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 ce mardi avec les 200 000 premières doses reçues du chinois Sinopharm. Les personnels de santé de première ligne, les personnes à comorbidité et les personnes âgées sont les cibles prioritaires de cette campagne qui, à terme, devrait concerner la majorité des Sénégalais. Une tâche qui ne s'annonce pas facile car certains ne sont pas convaincus. De Dakar, le reportage de Sedina Abagué.
Une quinzaine de personnalités ont reçu leur première dose de vaccin dans les jardins du ministère de la Santé lors d'une cérémonie ponctuée d'applaudissements et retransmise en direct à la télévision. Puisant ses seringues dans une petite boîte frigorifique bleue, un infirmier a d'abord administré le vaccin au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, ensuite le ministre de la Femme Daysalou Diop Dieng et l'ex-icône de la télévision nationale Elhadj Mansour Mbaye ou encore l'infectiologue vedette Moussa Seydi. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr souligne l'importance de cette campagne.
Nous pouvions, comme beaucoup de pays, attendre l'initiative COVAX. Il faut démarrer maintenant avec les ressources nationales dans le cadre d'une initiative propre, ce qui nous a permis d'acquérir 200 000 doses de Sinopharm.
Le vaccin Sinopharm, qui revendique une efficacité de 79%, a déjà servi dans plusieurs pays africains. Mais le Sénégal est le premier dans l'ouest du continent à lancer sa campagne qui vise en premier lieu les quelques 20 000 membres du personnel de santé et les personnes âgées. Mais au sein de la population, beaucoup restent sceptiques, comme Babacar Ndiaye.
Il y a certainement des gens qui en ont besoin. Ils peuvent le faire, mais personnellement, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner pour avoir en tout cas la conscience tranquille.
Sira Badiane est une jeune femme comorbide. Elle souffre d'asthme et d'anémie. La première campagne de demain concerne justement les sujets souffrant de comorbidité et les personnes exposées à la maladie. Elle trouve cette campagne positive, mais ne veut pas prendre le risque de se faire vacciner. D'autant plus qu'elle n'a aucune information sur les possibles effets secondaires.
Personnellement, je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment que je ne fais pas confiance plutôt à la médecine, mais plutôt qu'on ne connaît pas, disons, les effets secondaires qui en découlent. D'un autre côté, il faudrait le faire à un moment donné, c'est sûr, parce que vu que maintenant on demande des tests de corona à chaque fois qu'on veut voyager.
Ida Koku est une infirmière béninoise vivant et officiant au Sénégal. De par son activité professionnelle, elle a conscience des sévices du virus et de la nécessité du vaccin. Elle choisit de se faire vacciner car c'est avant tout un moyen efficace de prévention.
Le vaccin est essentiel dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, puisque jusqu'à présent, aucun médicament, en tout cas de façon officielle, n'a prouvé son efficacité dans la lutte contre la maladie. Et se vacciner, c'est à la fois se protéger et protéger la communauté des personnes à risque, les personnes âgées notamment, et les personnes qui ont déjà une maladie comorbidité, comme on dit. Donc, moi, personnellement, je me ferai vacciner.
Le pays fait face depuis fin novembre à une montée des cas de Covid et a comptabilisé au total plus de 33 000 cas positifs et plus de 800 décès. 18 nouveaux morts ont été annoncés mardi, un record depuis le début de la pandémie. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le juge Merrick Garland, candidat au poste de ministre américain de la Justice, a déclaré devant le Sénat lundi qu'une enquête sur l'émeute du 6 janvier au Capitole serait sa première priorité s'il était confirmé. La correspondante au Congrès des VOA, Catherine Gibson, revient sur l'audition du juge Garland proposée par Joe Biden pour devenir le futur ministre de la Justice. Le récit est de Nathalie Barge.
Lors de son audition au Sénat pour le poste de ministre de la Justice, le juge Merrick Garland a promis une vaste enquête sur les causes de l'assaut du 6 janvier contre le Capitole par des partisans de l'ex-président Donald Trump.
Je pense qu'il s'agit de l'attaque la plus odieuse que j'ai jamais vue contre les processus démocratiques et que je ne m'attendais pas à voir de mon vivant.
Le ministère de la Justice poursuit déjà des centaines de personnes pour leur rôle dans l'émeute. Les sénateurs ont demandé à Merrick Garland s'il envisagerait une définition plus large des personnes à poursuivre, qui pourrait potentiellement inclure l'ancien président Donald Trump. Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse.
That you will not rule out.
Vous n'excluerez pas la possibilité d'enquêter sur les contributeurs, les organisateurs, les chefs de file ou les collaborateurs et les complices qui n'étaient pas présents au Capitole le 6 janvier.
Le juge Garland, qui est actuellement à la tête de la Cour d'appel de la capitale fédérale, a assuré que l'enquête serait menée conformément aux procédures de justice.
We begin with the people on the ground and we work our way up to those who are involved.
Nous commençons par les gens sur le terrain et nous nous frayons un chemin vers ceux qui ont été impliqués à tous les niveaux et nous poursuivrons ces pistes où qu'elles nous mènent. C'est la démarche à suivre en matière de poursuite.
Merrick Garland a été nommé en 2016 par l'ancien président Barack Obama pour occuper un poste vacant à la Cour suprême. Les sénateurs républicains avaient retardé sa nomination en invoquant la prochaine élection présidentielle de 2016. Aujourd'hui, Garland est sur le point de succéder à Bill Barr, que les démocrates accusent de ne pas avoir fait preuve d'indépendance sous l'administration Trump. Le sénateur Dick Durbin.
Sous les sessions du ministre Bill Barr, le ministère de la Justice est littéralement devenu un bras de la Maison-Blanche, déterminé à servir les intérêts du président Trump, de sa famille et de ses alliés politiques.
Les républicains ont soutenu que c'était aussi un problème sous l'administration Obama. Le sénateur Ted Cruz.
The Department of Justice was politicized.
Le ministère de la Justice a été politisé et armé de manière carrément contraire à plus d'un siècle de tradition de ce ministère d'être apolitique et non pas un outil partisan pour cibler vos opposants.
Merrick Garland a répondu au sénateur qu'il servirait la justice en toute indépendance.
Je ne suis pas l'avocat du président, je suis l'avocat des États-Unis et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher tout effort de quiconque de rendre des poursuites ou des enquêtes partisanes ou politiques de quelque manière que ce soit.
Le magistrat a aussi promis de réglementer de façon stricte les communications avec la Maison-Blanche. Le Sénat devrait confirmer Merrick Garland au poste de ministre de la Justice la semaine prochaine.
Et c'est la fin de ce journal à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le président Joe Biden a qualifié la Chine de concurrent le plus sérieux des États-Unis et a clairement indiqué qu'il était prêt à relever les défis que représente ce pays.
We'll confront China's economic abuses.
Nous allons faire face aux abus économiques de la Chine et contrer sa ligne de conduite agressive pour repousser son attaque contre les droits de l'homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale. Le président Biden a également déclaré que les États-Unis sont prêts à engager des discussions avec la Chine à partir d'une position de force. Dans une récente interview télévisée à CNN, le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné qu'une position de force signifie des alliances fortes. « C'est une source d'avantage pour nous, n'est pas dénigrer nos alliés », dit-il. « Cela signifie se présenter à nouveau dans le monde pour discuter, parce que si nous ne le faisons pas, la Chine occupera le vide ». Le secrétaire d'État Blinken a également dit que s'engager à partir d'une position de force signifie défendre nos valeurs. Ne pas les abdiquer quand nous voyons l'abus des droits des Ouïghours au Xinjiang ou celui de la démocratie à Hong Kong, a déclaré le secrétaire Blinken, cela signifie nous assurer que nous adoptons une posture militaire qui dissuade de l'agression et cela signifie investir dans notre propre peuple afin qu'il puisse soutenir efficacement la concurrence. Lors d'un entretien téléphonique entre le secrétaire Blinken et le haut diplomate chinois Yang Zhengshe, M. Blinken a souligné que les États-Unis continueront de défendre les droits de l'homme et les valeurs démocratiques à Hong Kong, au Tibet et au Xinjiang. Il a noté que les États-Unis travailleront avec leurs alliés et partenaires pour défendre nos valeurs et nos intérêts communs, afin de tenir la République populaire de Chine responsable de ces efforts menaçant la stabilité dans la région Indo-Pacifique, y compris de l'autre côté du détroit de Taïwan. Il a également pressé la Chine à se joindre à la communauté internationale pour condamner le coup d'État militaire en Birmanie. Le président a été clair sur le fait qu'il veut mettre et va remettre les droits de l'homme et la démocratie au centre de notre politique étrangère, a déclaré le secrétaire Blinken à CNN. Et donc, que ce soit la Chine ou tout autre pays où nous avons des préoccupations profondes et sérieuses, cette question sera à l'avant-plan.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington.